La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Pasteur Laurent Lenoir de l'église Espoir et Vie, de la ville de Croyers, dans le Tarn. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la grâce de Dieu. Le titre du message est le suivant, la grâce abondante, comment recevoir et vivre la faveur de Dieu. Quand on parle de la grâce, et nous allons y revenir dans quelques instants, on parle de faveur, justement, imméritée. Donc une faveur que nous ne méritons pas, mais qui nous est accordée par amour. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 17, l'apôtre Jean va dire ceci, la loi a été donnée par Moïse dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Et il rajoute, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, Nouvelle Alliance, Nouveau Testament. La grâce et la vérité. J'aimerais voir quelques images de la grâce pour parler justement de ce fait, la grâce abondante de Dieu en Christ, et surtout répondre à cette question, comment recevoir et vivre la faveur de Dieu. Dans l'évangile de Jean, donc au chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 11, l'apôtre Jean va parler d'un fait, d'une situation, d'un contexte concernant la position d'une femme prise en flagrant délit d'adultère par les docteurs de la loi, par les religieux en Israël, prénommés les pharisiens. Et ils vont la placer, cette femme, au milieu de la foule. Et là, Jésus est présent. Et ils vont dire à Jésus, « Maître, Rabbi, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Alors que font-ils? Ils reviennent sur les textes de la loi de Moïse et ils disent ceci, « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu ? » Finalement, ces religieux, ces docteurs de la loi disaient cela pour lui tendre un piège à Jésus, afin de pouvoir rajouter au chef d'accusation bien d'autres faits, bien d'autres choses. Voyez-vous, Jésus va les surprendre. Il va se baisser, il va se mettre à écrire avec le doigt sur le sol. Alors, beaucoup de choses ont été dites là-dessus, à savoir, finalement, ce que Jésus avait effectivement écrit. Certains ont supposé qu'il faisait une liste des péchés de chacun de ses hommes. D'autres que, finalement, Jésus était en train d'écrire les 10 commandements pour interpeller ces pharisiens, ces docteurs de la loi qui avaient amené cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus ne va pas parler, il va simplement écrire. Et le texte nous dit que les hommes, eh bien, les plus âgés sont ceux qui se sont retirés les premiers. Après, c'est les plus jeunes qui sont partis. Alors, c'est vrai que les plus âgés sont les premiers à partir, ils se sentent repris, se sentent usés intérieurement, spirituellement, parce que Jésus, finalement, écrit au sol. Pourquoi ? Parce que ces hommes plus âgés sont beaucoup plus conscients de leurs péchés que les plus jeunes. On le comprend, les années et l'expérience contribuent à éroder notre sentiment de propre justice, mais nous pouvons, quel que soit notre âge, porter un regard finalement honnête sur notre vie, reconnaître notre nature pécheresse et chercher comment aider les autres au lieu de les faire souffrir. Mais Jésus est là. Ils s'en vont les uns après les autres. Finalement, cette femme, elle se retrouve seule avec Jésus. Et c'est là que la première image de la grâce abondante qui est en Christ, recevoir et vivre la faveur de Dieu, Jésus va donc manifester les choses ainsi. Il va se redresser et ne voyant plus que cette femme, il lui dit, mais femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a donc condamné. Ben, elle dit, personne, Seigneur. Et c'est là la parole de grâce que je voudrais souligner à ce moment-là, dite à cette femme de la part de Jésus, mais pour vous aussi, si vous ouvrez votre cœur à Christ, il dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Voyez-vous, le seul qui avait le droit de condamner, il a pardonné. Alors que sur cette femme, les paroles, au départ, elles sont acerbes, elles sont menaçantes. Mais Jésus, le Fils de Dieu, a pour elle les paroles de la grâce. Jésus n'approuve pas son péché, car la grâce n'est pas l'approbation du péché, mais celui qui va mourir pour les autres a le droit donc de faire grâce, en l'occurrence Jésus-Christ, si la loi de Dieu nous condamne tous. Car la Bible dit à ce sujet, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, l'acte d'amour de la croix nous sauve pleinement. La deuxième image de la grâce, donc, se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, dans le récit du verset 1er au verset 10. Ici, c'est une autre histoire. Et l'autre image dans ce texte que je veux souligner, pour la grâce abondante, comment recevoir et vivre la faveur de Dieu, c'est parler, souligner la guérison de grâce. Nous voulons de souligner la parole de grâce, mais maintenant c'est la guérison de grâce. Un officier romain, vous dit le texte, avait un esclave auquel il était très attaché, qui était malade, sur le point de mourir. Il a entendu parler de Jésus, alors il a envoyé quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Et quand ces anciens des Juifs sont arrivés vers Jésus, ils vont le supplier avec insistance en disant, écoute, Jésus, il mérite cet officier romain que tu lui accordes cela parce qu'il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. Jésus partit avec eux. L'Écriture nous dit, il n'était plus très loin de la maison quand l'officier romain a envoyé des amis vers Jésus pour lui dire, écoute, Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et c'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Et il lui dit, écoutez bien, il lui dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Sera guéri. Finalement, la question est posée, sur quelle base Jésus accède-t-il à la demande de cet homme, de cet officier romain. Les Juifs, les anciens des Juifs, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est donc noté dans le texte, ils vont lui dire, au verset 4, Luc chapitre 7, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite. Hein? Notez qu'ils disent, il mérite. Il mérite. Il mérite que tu lui accordes cette demande. Parce que il aime notre nation. Il a fait construire, il a favorisé la construction de notre lieu de culte, de notre synagogue. Il mérite. Et quand on s'aperçoit de ce qui ressort du texte, Alors que cet homme me dit, écoute, je suis pas digne que tu entres sous mon toit, quelle humilité. Donc, je ne suis pas allé vers toi, mais dis un mot, mon serviteur sera guéri. Et il prend son propre exemple. Écoute, moi, je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un part, il part, un autre vient et il vient, et à mon esclave fait ceci, il le fait, etc. Donc, quand Jésus entend ces paroles, il nous est dit qu'il va admirer la position spirituelle de foi de cet officier romain, et il va se tourner vers la foule qui le suivait. Et il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Finalement, en guérissant donc le serviteur de cet officier romain, Jésus le guérit non pas en mettant en évidence devant la foule, donc les mérites de cet homme, comme l'ont souligné les anciens des Juifs, non, non. Mais il met en évidence devant la foule la foi de cet officier romain en la puissance Dieu. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est pas grand-chose, pourtant, quand on lit la démarche de cet officier romain. Déjà, dans un premier temps, eh bien, je tiens à rappeler que c'est un officier romain. Finalement, il n'a aucun contact avec la loi, du moins de loin, il ne s'y attache pas. Pour lui, sa religion, c'est celle qui vient de Rome, celle qui découle de la présence même de César, etc. Elle est remarquable, sa foi. J'insiste, il n'est pas juif. Donc, il n'a pas bénéficié d'une éducation qui lui apprenait à connaître le Dieu d'amour, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'où ce commentaire de Jésus à cette foule. Pourtant, là, dans cette foule, il y a beaucoup de juifs, d'hommes et de femmes qui fréquentent la synagogue, hein, qui sont au contact de la loi de Dieu. Et il leur dit, notez-le. Je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi en Israël. Il n'a pas ma connaissance, il n'a pas la connaissance, ma connaissance dans le sens de la connaissance de qui est Christ, il n'a pas la connaissance de Dieu, il n'a pas la connaissance des textes de la loi, et pourtant, il croit dans la puissance de Dieu pour la guérison de son serviteur. Et d'ailleurs, de retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier Romains trouvèrent l'esclave, du moins le serviteur qui avait été malade, en bonne santé. Il a été guéri miraculeusement. Une guérison de grâce. Puis, la dernière image que je voudrais partager avec vous sur ce thème de la grâce abondante, comment recevoir et vivre la faveur de Dieu, nous la trouvons dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14 et le verset 6. Jésus va dire, c'est moi qui suis. Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père, on entre dans le royaume des cieux qu'en passant par moi, dit Jésus. Ici, ce texte de l'évangile de Jean nous met devant cette autre image de la grâce, c'est le chemin de la grâce. Nous avons parlé de la parole de la grâce, nous avons vu la guérison de la grâce. Maintenant, c'est le chemin de grâce. Jésus a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul n'entre dans le royaume des cieux que par moi. Que par moi. Finalement, Jésus se présente comme le seul chemin vers Dieu, le Père. On pourrait objecter de par notre humanité en disant que ce chemin est trop étroit, que ce chemin est trop compliqué à suivre, que ce chemin n'est pas évident, que ce chemin demande trop de renoncement. Mes amis, en réalité, ce chemin qu'est Christ, ce chemin de grâce, et j'insiste, de grâce abondante, la grâce qui est source de salut, c'est un chemin qui est assez large pour vous accueillir, pour accueillir le monde entier, toute l'humanité. Si le monde entier accepte, si les hommes, les femmes de ce monde acceptent, bien entendu, de l'emprunter. Je crois que on a besoin de réfléchir un petit peu là-dessus et de se poser sur les bonnes questions, d'avoir les bonnes réflexions, et puis de se dire finalement, au lieu de nous plaindre de n'avoir qu'un seul moyen d'accès au Père, soyons reconnaissants que cet accès existe et qu'il soit sûr. Ce n'est pas un accès de peut-être, on verra, je ne sais pas. Non, c'est sûr et certain. Donc dire que Jésus est le chemin, c'est souligner qu'il nous conduit au Père, vers le royaume des cieux, quand on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est un chemin qui est ouvert, il n'est pas encore fermé, c'est encore un temps de grâce. Alors que vous entendez en ce dimanche soir ce message de l'Évangile. Un chemin de grâce, jalonné par l'amour et la fidélité de Dieu en Christ tout au long de son parcours. Finalement, il nous conduit au Père. Je suis la vérité, je le rajoute. Ça veut dire que Jésus est venu pour accomplir toutes les promesses de Dieu le Père. Toutes promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Sont oui et amen en Jésus. D'accord? Et puis, il est la vie. Ça veut dire qu'il unit sa vie divine à la nôtre. Si nous l'acceptons, on y revient toujours comme sauveur, comme Seigneur, comme Rédempteur, comme celui qui va pardonner nos péchés. Mes amis, maintenant, il le fait, mais c'est pour l'éternité, bien entendu. En vérité, Jésus est le seul chemin vivant vers Dieu. Et celui qui s'y engage, il peut être assuré de la présence de Jésus. Il peut être assuré de la présence de Jésus par le Saint-Esprit. Il peut être assuré d'avoir la lumière nécessaire sur ce chemin, car Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marche plus dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Il peut être assuré d'avoir de la lumière sur ce chemin. Pour quelle raison? Car la parole de Dieu, les saintes écritures, la doctrine de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et puis, finalement, je voudrais aussi rajouter ceci, c'est que le psalmiste David, le roi David, dans le livre des psaumes, vous avez ce psaume de David qui est le psaume 23. Et il va débuter ce magnifique psaume connu par tous les croyants, tous les chrétiens de la terre, et même parfois même encore, il faut le dire aujourd'hui, même certains athées en ont entendu parler. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et que rajoute-t-il? Il dit, il me fait reposer près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Alléluia. Mes amis, finalement, déjà à cette époque-là, David, le roi David, connaissait l'Éternel comme étant un berger. Et il va ainsi mettre en évidence bah, cette réalité de ce chemin de grâce. Il est mon berger, il me conduit, il me redonne des forces, il me dirige, il le fait à cause de lui, à cause de son nom. Et quand bien même je marcherai dans la sombre vallée de l'épreuve, de la difficulté, des persécutions, des oppositions, de la mort, je ne redoute aucun mal parce qu'il est encore avec moi, parce que je suis avec lui, bien entendu. Il me conduit, il est mon appui, ça réconforte. Il va même juste adresser une table devant nous, en face de nos adversaires. Il va verser de l'huile sur notre tête. Il fait déborder notre coupe. Oui, je tiens à le dire pour conclure, le bonheur et la grâce alors nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous revenons toujours dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de... Alléluia. Mes amis, c'est ça qui est formidable. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il est celui qui nous aide à aller toujours plus loin sur le chemin de la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Quand la nuit se lève, quand le doute m'appelle, je me tiens debout, Seigneur, dans tes mains. Le chemin est rude, la bataille est réelle, mais ta voix m'élève, je ne crains plus rien.
Les chaînes tombent quand ton nom s'élève. La croix est ma victoire, je vis de ton sang. L'ennemi recule, ton esprit m'inspire. Je suis ton enfant, je vais triompher.
Dieu donne quand le combat s'élève. Dieu donne sa force et son feu. Plus dur est le chemin. Jésus marche devant moi. Je lève mes mains dans la tempête. Ton amour est mon étendard. Tu m'envoies au front comme prophète. Ton royaume vit en mon regard. Dieu donne quand le combat s'élève. Dieu donne sa force et son feu.
Jésus.